Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, Venezuela, Iran, Corée du Nord, quel est le point commun entre ces trois pays? Eh bien, c'est la politique américaine
c'est
de
ça.
Pression maximale.
Ils sont sous pression des sanctions totales contre l'achat de pétrole iranien qui sont entrées en vigueur depuis hier. La pression sur les banques chinoises qui s'accroît pour révéler leurs transactions avec la Corée du Nord, hier également. Au Venezuela, la montée en tension à Caracas a été précédée d'un embargo de Washington sur le pétrole. Dans ces trois cas, effectivement, la Maison-Blanche invoque une stratégie de pression maximale. Alors, toujours une forme d'interventionnisme. On voit ça avec vous, Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone depuis Tunis. Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de Requiem pour le monde occidental sur la politique étrangère de Donald Trump. Pression maximale donc énoncée plusieurs fois sur ces derniers mois par les officiels de la Maison-Blanche au sujet de la Corée du Nord, de l'Iran, du Venezuela. Pression économique et judiciaire peut-être à défaut d'une intervention militaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la ligne directrice de Donald Trump en matière de politique étrangère?
Oui, tout à fait. C'est presque une nouvelle stratégie. Donald Trump, finalement, fait le bilan de ce qu'on appelle l'hégémonie libérale, le fait d'intervenir militairement pour imposer la démocratie. Ça a été un échec en Irak, ça a été un échec en Libye. Et donc, il veut passer à l'autre genre. Il ne veut plus risquer les vies de soldats américains parce que ça coûte cher, c'est impopulaire chez lui. Mais il veut, par contre, pouvoir offrir le scalp de quelques régimes avant les élections de 2020. Et il y a des régimes qui sont honnis par son public, par son électorat, notamment le Venezuela, l'Iran, bien sûr, au premier rang, Cuba également, et puis la Corée du Nord. Il veut aussi pouvoir dire qu'il a obtenu ce que aucun de ses prédécesseurs n'avait obtenu, à savoir la dénucléarisation. Et donc, il met de côté l'action militaire pour mettre à fond l'action économique, l'embargo, et profiter du caractère extraterritorial de la législation américaine pour faire en sorte un chantage pays pour les obliger à suivre sa politique.
Et alors justement, contre cette idée d'être le gendarme du monde, une autre manière d'être le gendarme du monde, ou simplement, comme vous disiez, offrir le scalp de ces régimes, c'est-à-dire cette stratégie, est-ce qu'elle a d'abord une vocation intérieure ou une vocation de polisser le monde, comme les prédécesseurs de Donald Trump?
Alors en fait, à chaque fois que Trump fait quelque chose en politique extérieure, c'est à des fins de politique intérieure. Il veut convaincre ses électeurs, il veut être réélu en 2020, et quoi de mieux de dire qu'il a obtenu un changement de régime, qu'il a fait tomber le régime d'Imola, ou qu'il a fait tomber Maduro, ou qu'il a fait tomber l'héritier de Castro, ou même qu'il a obtenu donc la dénucléarisation de la Corée du Nord, ce que aucun de ses prédécesseurs depuis la fin de la guerre froide avait obtenu. Et ça serait pour lui un triomphe. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une certaine cohérence dans sa doctrine, puisque la France avait pu s'opposer avec l'Allemagne très fortement à la guerre d'Irak, mais là, eh bien, les compagnies françaises ont quitté l'Iran. Et donc, il est beaucoup plus difficile de s'opposer à cette stratégie qu'il était possible de s'opposer à l'ancienne stratégie militaire du temps des ex-présidents américains.
Et alors, justement, qu'on prenne un peu certains de ces cas. Le Venezuela, par exemple, donc, nouvelle tension là, cette semaine à Caracas, cet embargo des États-Unis sur les achats de pétrole vénézuélien pour étrangler encore plus le régime. Pas mal de critiques et de doutes sur, d'une part, l'efficacité de ces sanctions et ce qu'elles nuisent vraiment aux officiels du régime. Et puis surtout, la question de la menace militaire. Plusieurs fois, Donald Trump a répété que toutes les options étaient sur la table, parallèlement aux sanctions économiques. Quel rôle elles jouent, ces menaces militaires? Elles sont amenées à avoir une effectivité, selon vous?
Alors, on ne peut pas complètement l'écarter parce qu'il y a une vieille tradition d'intervention militaire américaine en Amérique latine. Et d'ailleurs, c'est le seul cas, parce que dans le cas de l'Iran, dans le cas de la Corée du Nord, encore plus, bien sûr, vu que la Corée du Nord est un pays nucléaire, et même dans le cas de Cuba, Donald Trump n'agite pas la menace militaire. Là, il l'agite, c'est certainement pour faire pression sur les militaires vénézuéliens, pour les amener à se ranger du côté du président autoproclamé. Mais il y a quand même un risque important pour les soldats américains à intervenir. Et donc, on peut penser que la part de chantage est plus importante que la part de menace réelle. Mais on voit bien effectivement que dans tous les cas, et quelles que soient les conséquences sur le long terme, il veut mettre économiquement tous ces régimes à genoux en pensant, en faisant le pari suivant, la population va se révolter parce que les régimes ne pourront plus fournir les services de base à la population. Et donc, ça va être le chaos constructif. Les Iraniens vont se révolter contre les mollahs. Les les Cubains contre l'héritier de Castro et les Vénézuéliens contre Maduro parce qu'ils seront exsangues, parce qu'ils n'auront plus les moyens d'avoir de la nourriture, d'avoir un ravitaillement. Et donc c'est vraiment une sorte de stratégie d'étranglement par l'économie et non plus l'intervention militaire directe à l'ancienne.
Et cette stratégie d'étranglement, elle est menée par Donald Trump uniquement ou quasiment uniquement, ou est-ce qu'elle est soutenue autour de lui? Parce que dans un article récemment, là, le kit ou double de Donald Trump que vous avez écrit pour l'Iris, vous citez une étude américaine qui est intéressante parce que elle pointe non seulement peut-être parfois l'inefficacité de ce genre de sanctions, mais aussi des effets négatifs indésirés, par exemple sur les prix mondiaux, ou même le fait qu'elle inciterait certains gouvernements à les contourner, ces sanctions, finalement.
Oui, bien sûr, dans le cas du... Puisque le Venezuela et l'Iran sont d'importants producteurs de pétrole, cela va faire monter les cours du pétrole, ce qui peut satisfaire les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis qui ont besoin d'un cours haut pour être rentable, mais ce qui va jouer sur les prix et ce qui va surtout jouer sur la reprise économique. Et puis, le risque à long terme, c'est ce que pointe cette étude, en effet, c'est que les pays qui sont un peu sous le choc pour l'instant, on voit finalement la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont créé un véhicule spécial pour continuer à commercer avec l'Iran, mais les grandes compagnies, Total, Air France, Peugeot ont quitté l'Iran. Et donc, même si les pays sont sous le choc, ils sont un peu contraints, bon gré mal gré, dessus les Américains, à terme, sur le moyen long terme, ils vont s'interroger. Est-ce qu'on doit continuer à payer tout cela en dollars? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est normal de payer les Airbus en dollars? Est-ce qu'il est normal de payer notre pétrole en dollars? Et donc, à terme, ça peut être le rôle du dollar comme monnaie internationale qui pourrait être en cause. Lors du dernier forum de Valdaï en octobre dernier, Vladimir Poutine avait tout à fait mis en garde contre cela en disant qu'il fallait souhaiter une dédollarisation de l'économie internationale. Et on peut penser que les Chinois auront quand même du mal à accepter de ne plus acheter du tout du pétrole en Iran et qu'ils vont certainement pousser pour de plus en plus pousser leur propre monnaie comme monnaie du commerce international, ou du moins de leur propre commerce international.
Oui, ce forum de Valdaï sur les investissements énergétiques. Vous concluez l'article en disant que le test, ce sera de voir si prochainement il y a des achats en pétrole qui seront facturés dans une autre monnaie que le dollar. Donc ce serait envisageable en dehors des opérations de troc qui peuvent exister déjà pour le pétrole.
Bah oui, effectivement, c'est juste l'usage, la facilité, l'habitude, une sorte de paresse intellectuelle ou de paresse stratégique qui fait que les grands opérateurs achètent le pétrole en dollars. Il y a régulièrement des tentatives pour dire « tiens, on pourrait faire autrement », mais qui ont pour l'instant été, qui ont échoué ou qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout parce qu'effectivement, le dollar est abondant, il est facile à trouver, on est habitué à échanger en dollars, mais par rapport en fait à ce chantage de Trump et par rapport au fait qu'il c'est une atteinte directe, non seulement à la souveraineté de l'Iran, du Venezuela ou de Cuba, mais c'est aussi une atteinte à la souveraineté des pays qui veulent commercer avec ces autres pays, notamment l'Union européenne doit choisir si elle doit continuer à courber les Chines ou à obéir ou à défendre sa souveraineté, parce que là, les États-Unis traitent les pays de l'Union européenne comme un peu l'Union soviétique en son temps traitait les pays du pacte de Varsovie, en disant on a décidé quelle était cette politique vis-à-vis de l'Iran ou de Cuba, vous n'avez pas le choix, vous devez la suivre, sinon ça sera des sanctions dont vous aurez du mal à vous remettre.
Et oui, c'est tout le problème de cette extraterritorialité, effectivement, des sanctions américaines. Alors, un cas d'école concernant cette pression maximale, c'est peut-être la Corée du Nord, cas d'école parce que c'est là que Trump s'est le plus engagé sans doute et que c'est là qu'il est le plus critiqué. Le New York Times parle de fiasco nord-coréen parce que la Corée du Nord, justement, contourne assez aisément certaines des sanctions en échangeant du charbon contre du pétrole, parce que Trump a été obligé de reculer sur certaines sanctions, ce qui fait que les démocrates l'accusent d'être d'une naïveté insensée. Vous pensez que c'est le cas ou que juste le calcul est à très long terme?
Disons qu'à court terme, je rentre de Corée du Sud et les Sud-Coréens sont assez inquiets. Trump pense aussi que Kim Jong-un veut moderniser son pays et qu'il n'a pas le choix que de céder l'arme nucléaire en échange d'une ouverture économique. Et que donc, en mettant, là encore, les pressions maximales, il va amener Kim à céder. Sauf que Kim Jong-un veut surtout survivre et qu'il pense que si Kadhafi ou Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il serait encore en vie et au pouvoir, et donc il n'a guère envie de renoncer à l'arme nucléaire. Et les Sud-Coréens sont très inquiets de cette politique un petit peu d'incendiaire, de pyromane que Trump fait. Les Sud-Coréens, comme d'ailleurs les Chinois, ont plutôt envie d'un atterrissage en douceur acteurs du régime nord-coréen et de les arrimer au fur et à mesure à l'économie internationale, un peu comme l'Allemagne de l'Est avait été arrimée par l'Allemagne de l'Ouest dans un passé assez lointain, post-très-guerre froide.
Et de ce point de vue-là, il s'est mis face à Kim Jong-un en position de faiblesse ou alors dans une impasse, en ne cédant pas assez justement sur les sanctions ou en cédant trop, dans quel sens vous pencheriez ?
Oui, bien sûr. Il a cédé dans la mesure où il a accordé à Kim ce qu'il voulait obtenir, un sommet. C'est une grande réussite à la fois de prestige et de popularité interne pour Kim Jong-un. Et puis, simplement, ni les Chinois ni les Sud-Coréens n'ont envie de voir le régime nord-coréen s'effondrer parce que c'est eux qui auraient à gérer cela. Et les Sud-Coréens savent très bien qu'en cas de réunification trop rapide, ils n'ont pas les moyens d'assumer cette réunification. L'écart entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est bien plus important que l'écart entre les deux Allemagnes, et il y avait 4 Allemands de l'Ouest pour nourrir ou pour aider un Allemand de l'Est, il n'y a que 2 Sud-Coréens pour intégrer un Nord-Coréen, et donc ils veulent surtout, non pas du tout, le chaos auquel Trump peut prétendre pour faire céder Kim Jong-un et le régime nord-coréen.
Donc globalement, cette pression maximale, que ce soit pour obtenir un changement de régime ou gagner une sorte de bras de fer, hein, comme on dit, avec le régime, jusqu'ici sans efficacité ?
Disons qu'il compte bien qu'un de ces régimes tombe d'ici 2020 et on ne peut pas effectivement l'exclure. Après, il faudra savoir la façon dont ça se passe. Les Mexicains souhaitaient plutôt une médiation entre l'opposition au Venezuela et Maduro. Trump, lui, veut plutôt dire qu'il a une fois encore obtenu la tête de Maduro. Alors peut-être qu'il obtiendra avant sa réélection, mais il est peu probable que cela amène à un Venezuela stable et prospère.
Oui, les gens ont faim, ajouté Donald Trump hier. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Bonne journée.